Moi, je suis dans le milieu à cause de l'authenticité et la spontanéité et l'expression. Et quand on, moi, je dirais jamais la moitié de mes amis sont trisomiques. Il y a quelque chose qui me dépasse là et je m'en fous de ça. Ils sont mes amis à moi. Et voilà, je ne parle pas. Voilà, mais c'est ma réalité à moi.
Bienvenue à cette conversation dans le cadre de l'exposition Libre Botanique, qui est une exposition en partenariat avec les Drapiers et le CREAM. On va évidemment expliquer ce qu'est le CREAM très vite. Mais c'est important tout de suite de dire que l'exposition compte des œuvres de Géraldine Beaupère, Luc Heyen, Alain Mert, Marie Campiner, Michel Pétignot, Rémi Muller, Michel Thierry, Brandon Mambi, Maïten Kagé.
Jagiba.
Merci. Et Alexandre Bernardi.
Exact.
Mais c'est avec Mikil de Jaeger aujourd'hui que nous nous entretenons. Mikil, tu es en charge de la production et de la diffusion des ateliers d'art plastique au CREAM, c'est ça?
Oui, exactement. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Hein? Il y a des activités, c'est la vie quotidienne. Nous sommes un peu dans une activité intellectuelle. Le langage corporel est hyper important
Ouais.
chez nous. Et c'est aussi être à l'aise, je crois. Moi, je suis à l'aise ici, mais je crois que ce n'est pas pour tout le monde
Oui,
de
c'est
le
sûr.
faire. David était chez nous pour enregistrer les personnes. Denise est venue avec Abigail et l'équipe. Du coup, aujourd'hui, c'est un peu spécial. Hein? Mais
Oui.
voilà, c'était la visite. Vendredi dernier, tout le monde est venu à nouveau en équipe.
Peut-être qu'avant toute chose, parce que peut-être qu'on a dit des mots qui pour tout le monde ne veulent pas encore dire grand-chose, on va expliquer de quoi on parle.
OK.
Et on va essayer d'avoir une conversation qui rend un peu concrète la réalité de ces ateliers d'art plastique au CREAM. Le meilleur moyen de dire ce qu'est le CREAM, c'est de lire quelques petites phrases du texte que vous avez rédigé. Fondé en 1979, le CREAM a pour objectif de susciter et de promouvoir la créativité des personnes adultes en situation de handicap mental. Il galvanise la création de formes d'art ouvertement singulières qui détournent le sérieux avec désinvolture, qui confrontent les référentiels de la culture de masse aux beaux-arts, qui revendiquent leurs racines locales tout en étant tournés sur le monde. Dans les ateliers d'art plastique, scéniques et numériques, des artistes animatrices accompagnent le cheminement des participants, tant par l'écoute, pardon, le respect de leur personnalité et de leur inventivité, que par l'apprentissage de techniques rigoureuses. Rien que tout ça, ça nous fait pas mal de sujets de
Réflexion,
discussion,
ok.
je pense. Comment se passe concrètement des journées d'atelier au CREAM? On a envie de mettre un petit peu une réalité derrière ces dessins qu'on voit dans l'exposition Libre Botanique. Donc, on l'a dit, c'est un atelier pour des artistes en situation de handicap mental. Est-ce que ce sont des gens qui ont des personnes qui ont une pratique quand ils et elles arrivent aux ateliers? Est-ce que ce sont des gens qui dessinent? Qui vient au CREAM, en fait, déjà pour commencer?
C'est très personnel. Du coup, on travaille avec des adultes. Hein? Du coup, ils ne sont plus à l'école. Quand les personnes arrivent au CREAM, ils expliquent leurs intérêts. Il y a aussi des personnes qui sont des touristes au CREAM au début, seulement un après-midi. On a aussi une ancienne équipe des artistes arrivés. Et on propose en fait des activités pendant la semaine, la vie quotidienne au CREAM. Et voilà, il y a des personnes qui sont en famille, il y a des personnes qui sont dans des centres, mais voilà, c'est leur travail d'être au CREAM. Et chaque vendredi après-midi, il y a le planning, ça s'appelle. Et du coup, toutes les personnes expriment leurs envies pour la semaine prochaine. J'ai envie de plus de sport, la piscine. Ou en théâtre, ou j'en ai un projet en dessin, et j'en ai un thème que je voudrais bien aborder. Et du coup, le planning est fait pour la semaine prochaine. Et on essaie de proposer des choses aussi quand quelqu'un veut apprendre une nouvelle technique, par exemple. Il y a sérigraphie, gravure, dessin, peinture. Moi, je suis plutôt, avec Manon de Smet, ma collègue directe, responsable pour les projets arts plastiques. Du coup, je ne vais moins parler du théâtre ou de cirque ou de danse. Mais voilà, on a la population du CRIAM change aussi beaucoup, hein, parce qu'il y a moins de personnes en situation de trisomie 21. On a plus de personnes sur le spectre d'autisme. Du coup, ça change beaucoup aussi l'énergie. On a installé un espace tranquille. La concentration est hyper importante et l'envie. Ça, c'est le mot hyper important. Que la personne a envie d'être là. Mais du coup, il y a les arts facilitateurs, on dit maintenant, les animateurs, du coup, les accompagnateurs créatifs. Et, il y a les artistes, mais il y a aussi le pôle éducatif. Du coup, ça c'est la vie quotidienne au CRIAM qui est quand même, comment dire, notre intention n'est pas le soin, mais on a besoin du soin et la communauté autour de la personne est importante. Et du coup, chaque projet, chaque personne est suivie par une équipe éducation, animateur, l'artiste elle-même, et voilà, technique. Et voilà, nous sommes vraiment un collectif, quoi.
Elle est importante, cette phrase que tu viens de dire, je pense. Notre intention n'est pas le soin. C'est-à-dire que c'est important de faire la différence entre soin et guérison. C'est un accompagnement dont l'objectif n'est pas la guérison, mais un accompagnement de soin.
Oui, notre public n'est pas malade. Du coup, on ne fait pas art-thérapie. C'est vrai que l'art peut aider les personnes. Une expression peut aider au bien-être. Mm-hmm. Mais ça, ce n'est pas le but de base, quoi.
L'objectif, c'est de laisser libre cours à la créativité,
oui.
De trouver des formes.
Oui, nous ne sommes pas du tout dans l'occupationnel. Voilà. Dans les ateliers, la concentration est hyper importante et ça, c'est quelque chose qu'on soigne et ça, c'est le soin quand même. Et pour nous, la réflexion, c'est leur travail. D'être créative. Mais tous les dessins, tous les projets sont nés, c'est à nouveau le mot l'envie de la personne, mais c'est vraiment accompagné par les professionnels, les artistes dans l'équipe.
Cette question de discerner l'envie et d'arriver à trouver l'envie des personnes, elle est peut-être particulière. Je me rappelle quand on avait discuté au CREAM pour préparer le texte qui est dans le catalogue, tu m'avais dit une chose qui m'avait marqué. Tu avais parlé de tricoter le temps. C'est-à-dire que le temps n'est pas du tout, j'imagine, je suppose, que le temps n'est pas du tout le même que le temps d'un artiste valide. Est-ce qu'on est OK avec le mot valide ? Et en particulier parce que le fait de formuler ses envies n'est pas forcément évident pour les artistes du CREAM. Et donc, il y a tout un travail. C'est là que l'accompagnement intervient, j'imagine.
Oui. Je crois aussi que chaque personne est différente. Du coup, il y a une autre façon de communiquer vers eux. C'est très personnel. Du coup, il y a la phase de rencontre qui est hyper importante, de laisser le temps. Les rencontres et les expériences entre humains. Et ça, c'est le gentle teaching du début. Et après, on peut faire des propositions. Où il y a aussi des périodes de formation, peut-être. Quand quelqu'un a envie de faire un projet art numérique, ce n'est pas « allez, fonce, fais ton truc ». Non, il y a des périodes d'expérimentation et de laisser faire, et de la recherche et de réflexion. Mais quand il y a un projet ou une idée qui est née dans l'atelier, on accompagne créativement, artistiquement, pour la personne et aussi pour laisser évoluer dans leur propre style. Il y a des artistes qui sont, par exemple, dans le mouvement. Et voilà, c'est un trait à gauche, un trait à droite. Et c'est plutôt la performance presque. Il y a des personnes qui sont hyper actives, il y a des personnes qui sont plus dans la lune, et des rêveurs, et, mais c'est très subjectif aussi. Et, quand il y a un grain, on voit un grain, on laisse pousser la plante, mais c'est, on ne peut pas instrumentaliser les personnes, les artistes, mais on peut faire des suggestions, des propositions, sans projectionner mon goût ou mon projet vers eux. De plus en plus, on parle aussi de Crip School et Crip Manifesto. C'est un texte écrit et c'est aujourd'hui moins le cas, mais la première fois dans le manifesto Crip Manifesto est Nothing about us without us. Rien
à propos de nous sans nous.
Du coup, aujourd'hui, mais je crois que je me sens OK de présenter les artistes du CRIAM. Hein. Du coup, c'est une autre histoire. Mais le Crip School, Crip, ça vient de cripple, quelqu'un qui boite. Et ça, c'est un nom de fierté. C'est un nom tout le monde peut s'approprier. Et c'est, on protège les artistes sans...
Leur liberté.
Oui, leur liberté de création, oui.
Les œuvres qui sont accrochées au drapier sont des extraits d'un projet qui s'appelle Botanicum, qui a beaucoup d'importance au CREAM. Et on constate cette importance au CREAM, cette adéquation entre le projet Botanicum et la façon de travailler au CREAM. On la constate en discutant avec vous, parce que de toute façon, Botanicum, pas Botanicum, tout le vocabulaire utilisé pour parler de votre travail en atelier, il est autour de ça. Il est autour de laisser grandir, laisser fleurir les envies.
Oui. Le projet est vraiment né dans les ateliers arts plastiques à cause de Luc, Géraldine et Alain. Qui ont vraiment montré un intérêt vers la thématique du dessin botanique.
Donc, Luc Ayen, Alain Mert et Géraldine Bobert, qui sont trois des artistes présentés dans l'exposition.
Oui. Et voilà, CREAM est un centre qui est local et voudrait bien travailler aussi dans le quartier, mais aussi à Liège. Et quand je suis arrivé, j'ai remarqué que nous sommes... On fait beaucoup de choses en urgence. Et moi, j'ai voulu de trouver un projet long terme avec une réflexion profonde, avec des textes et du coup, mais vers la personne. Du coup, ce n'était pas quelque chose imposé, pas du tout. C'était juste quelque chose, Manon et moi, on facilitait dans les ateliers, en équipe.
Ce projet, il est né donc de l'envie de trois des artistes et accompagné en particulier par une animatrice qu'on peut citer, Jean-Thierry Angeli.
Oui,
c'est important,
oui, absolument.
Et on a trouvé qu'en fait la thématique idéale pour nous, en tant que personnes avec nos sensibilités, serait autour de ce fantasme de botanique.
C'est-à-dire...
Alors qu'est-ce que j'entends par ça? C'est effectivement tout ce qui prend son sens et qui est inépuisable, c'est ces ressources de forme organique et tout ce qui est inspiration de la nature, ça on est bien d'accord. Mm-hmm. Mais du coup, rentre là-dedans un monde pluridisciplinaire d'imaginaire et de technique. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment pour préserver les artistes, leur permettre de pouvoir rentrer ou sortir du projet. Je n'ai pas eu envie de cadenasser... cette thématique, et c'était aussi quelque chose qui permet à des novices, des artistes qui viennent d'intégrer l'atelier, donc d'être vraiment à un niveau horizontal, on va dire. On n'est pas devant des prouesses techniques, on est vraiment dans des naissances, ce qui est tout à fait encore dans le cycle de la nature. On est dans la graine, on germe, ça accompagne énormément de symboles et d'archétypes, on va dire.
Okay.
Donc ça, c'est une chose. C'est aussi sur la durée du temps, des cycles. Et moi, je voulais vraiment quelque chose qui ne soit pas enfermé et évolutif, pour ne pas être pressé, pour ne pas que ce soit un projet qu'on boucle et qu'on referme et qu'on oublie. Donc, c'est un projet socioculturel, quelque part, aussi. Enfin, tout est permis et c'est une liberté, surtout aussi dans le plaisir, quoi. Je pense que vraiment, le plaisir était central et sensibilité. Et donc tout en fait s'articule. Enfin, je ne saurais pas m'arrêter de parler des avantages et des intérêts de tout ça.
On a fait beaucoup des extraits du projet. On était à Courtrai chez ASBL8, on était à Vals dans l'Institut de cartopologie. Voilà, on a fait beaucoup de... Mais on n'impose pas le rythme. C'est quelque chose qui est fait tranquillement aussi, je crois. Mm-hmm. Ici, au Drapier, on a parlé beaucoup de ça. Voilà, on a pris le temps de créer l'expo.
Pour eux, pour elles, eux, montrer, faire des expositions, c'est important, j'imagine aussi. Avoir le regard du public aussi sur ça.
Ça dépend la personne.
Ça dépend.
Il y a des personnes qui s'en foutent totalement et c'est la création qui est plus importante. Il y a des personnes qui sont en demande des expos. Il y a aussi des jeunes qui sont pas assez évolués pour exposer, qui demandent une expo, mais de temps en temps, c'est juste essayer de valoriser leur envie de création. De temps en temps, on fait des expos pour laisser évoluer la personne.
Ouais.
Ça dépend. C'est très personnel, ça.
OK. Quels sont les enjeux particuliers d'une scénographie d'expo comme celle-là ? Le fait de décider si on montre ou on ne montre pas des artistes en situation de handicap.
Ça dépend les projets. Du coup, au CRIAM, par exemple, Alain Myrt est dans son prochain projet. Et c'est lui le directeur artistique de son faux mariage. Ça sera une scénographie ouverte au public. Tout est faux, le gâteau, mais c'est un événement. Et ça, c'est le projet d'Alain. Et nous sommes là pour lui soutenir. Ici, c'est une expo-vente. Et nous sommes bien accueillis par l'équipe ici. Et pour nous, ça fait plaisir qu'on peut partager la qualité des œuvres dans une galerie et être fier et local aussi, parce que le CRIAM est juste à côté. On fait des expos au musée aussi. Ce n'est pas pour vendre. On a une collection des œuvres qu'on va garder, ça c'est sûr. Il y a aussi quand un ou une artiste décède ou ne vient plus au CRIAM, on propose au Trincool, un musée Parc d'Avrois, de vraiment archiver les œuvres. Mais comme vous savez, un musée fait réflexion, archivage, c'est pas notre rôle. Mm. Nous sommes des ateliers vivants qui essayent de mettre en valeur la personne qui peut évoluer. On a des touristes aussi. On a beaucoup d'énergie, tout le temps des impulses. Alors pour moi, personnellement, c'était super riche que l'équipe était là pour nous aider pour l'accrochage.
Donc, je vais expliquer comment on a travaillé.
Denise Biernaud, fondatrice et directrice de la Galerie Les Drapiers et co-commissaire de l'exposition.
On a été au CRIAM. On a choisi avec Jean-Luc une série d'œuvres comme elles étaient. On a pris, on est revenu ici. Donc, on les a pris comme elles étaient. Certaines étaient encadrées, certaines étaient empilées. Enfin, c'était quand même du bazar de toutes les formes. Mmh. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait aussi, en étant pratique, avec les moyens du bord, mais en respectant l'œuvre. On a d'abord regardé l'œuvre et ce que c'était et comment on les mettait ensemble. Et on ne s'est plus posé la question, est-ce que c'est de l'art brut, est-ce que c'est ceci ? On s'en foutait carrément. Mmh. Et ça, c'était aussi un choix de départ. On voulait juste avoir du plaisir avec des choses qu'on voyait et comment on peut les mettre ensemble. C'est tout. Donc à certains moments, il a fallu trouver des solutions de présentation pratiques, à certains moments chères ou pas chères, et que ça aille avec l'espace. Mmh. Mais je sais pas, oui, les cadres, tu parles des cadres, ben, à un moment je t'ai appelé, t'as pas des cadres de réserve, t'es revenu avec des cadres. Jean-Luc a démonté, derrière il y avait Elvis Presley ou je ne sais pas quoi, mais on et une fois, on a accroché des trucs sur des cartons. On a joué aussi.
Oui, oui, oui.
Et on voulait... Enfin, c'était important que les gens rentrent sans commencer à se dire « art brut par art brut, quoi, non ?» On rentre, on regarde, c'est tout. Mmh. Et puis on rentre dans quelque chose, et puis ceux qui veulent lire des textes ou savoir que c'est le créam, mais voilà. Mais...
C'est le plaisir, comme tu dis aussi, ça c'est un mot qui tombe beaucoup en équipe, qui est aussi à côté, la base aussi, à
côté l'envie. Et de regarder, quoi.
L'envie est aussi
le plaisir. Il y a l'envie de faire, mais il y a l'envie de regarder. Et de lui donner la place, quoi. Une place comme n'importe quelle place, ici, n'importe quel artiste.
Est-ce qu'il y a toujours trop de cadres, hein? Mais voilà. Le public a un autre regard aussi, que je respecte aussi. Voilà, ça dépend des projets, la façon qu'on travaille. Ici, on a pris le temps. Allez, personnellement, j'aime mieux que les œuvres communiquent entre eux et pas avec un cartel. Et beaucoup des cartels, et heureusement ici, ce n'est pas le cas avec le catalogue, sont écrits un peu... Oh. Cette personne-là, elle a besoin d'aide. Et, elle est pauvre, handicapée, et tu vois. Et ça, on ne peut pas non plus. Et pour moi, l'identité, un handicap, est seulement un petit fragment du mot, de l'entité d'une personne. Et, nous sommes plusieurs choses en même temps, partout, en même temps. Et... C'est vrai, quand on n'écrit rien, la communauté et la situation réelle est oubliée. Du coup, c'est toujours l'équilibre qu'on doit trouver à nouveau, situation par situation. Et c'est vrai, sans catalogue, mais le catalogue est là. Le créam est mentionné. Et quand je parle de Luc, je mentionne rarement qu'il est porteur de trisomie 21. Et je parle de son axe et de son talent et qu'il est arrivé comme artiste. Mais en même temps, quand on ne mentionne rien, ce n'est pas non plus correct, quoi.
Vous vous posez la question de est-ce qu'on met en avant que ce sont des personnes en situation de handicap ? Est-ce que des fois on se pose la question de ne pas en parler du tout ? Est-ce que...
Ça, c'est une autre discussion dans notre secteur et nous sommes dans l'art contemporain, tout court, mais le public a besoin de noms. Il y a plusieurs noms. Moi, j'ai dit art brut contemporain. Il y a des personnes qui utilisent art situé. Situé vient du centre, c'est créé en situation. Art différencié, art singulier. Moi, j'utilise art brut contemporain parce que je trouve l'art brut de Buffet un peu... C'est un truc spécial et c'est à part, quoi. Du coup, nous sommes dans l'art contemporain, mais c'est important, je trouve, pour le public d'avoir un terme, parce que sans terme, on n'en parle pas et on voudrait bien que c'est un sujet de conversation. Du coup, on a besoin d'un terme. Ma philosophie était toujours sans stigme. Mon rêve est d'accrocher Luc Heyen à côté Picasso sans mentionner le stigme de son handicap. Mais après, on oublie la communauté autour de la personne, qui sont des artistes aussi. Et les personnes... dans leur vie, depuis l'enfance, ne sont pas appris de dire leur avis. Tout est fait pour eux. C'est toujours oui ou non. Et on essaie de responsabiliser la personne, mais aussi de laisser grandir et de créer leur propre esprit et âme. Du coup, oui, c'est très compliqué. On change expo par expo. Il y a des publics qui aiment bien qu'il y a le stigma. Il y a des situations qu'on préfère de rien mentionner. Du coup, on doit s'adapter vers la société, malheureusement, de temps en temps. Allez, voilà, c'est très compliqué, ça.
Et parce que nous, c'est une conversation qu'on a pas mal eue avant même que l'exposition commence, hein, sur comment on en parlait. Et dans cette façon de représenter le stigmate, comme tu dis, le terme art brut, donc toi, tu choisis art contemporain, mais tu gardes brut au milieu, art brut contemporain. Le terme art brut, il te semble toujours pertinent. En tout cas, il te semble parlant pour le public.
Non, je ne vais pas traduire l'expression flamande.
Je t'en prie.
Non, ça va, c'est un peu.
Tout sera coupé au montage.
J'étais à Lausanne j'ai trouvé le musée un peu démodé, mais soit c'est la base et je trouve l'art. Quand je vois l'art historique. Allez, dans les œuvres art brut contemporain, je décroche.
Ouais, hein.
Ça doit être, mais pas tout le monde est un obsessionnel non plus. Pas tout le monde n'a envie de travailler dans leur bureau pendant la nuit. Allez, on a des génies qui travaillent tout le temps pendant la nuit, qui arrivent hyper fatigués et ils bossent encore. Mais il y a tout un public qu'on doit accueillir aussi.
Mikil, tu parlais de sans les mots, on ne peut pas en parler. Mais en fait, aussi, d'un côté, les mots, ça concerne beaucoup les valides, l'art brut. Les artistes du CREAM, ils s'en fichent un petit peu. Et c'est des gens qui l'ont créé, des gens valides qui étaient à l'extérieur. Et aussi, en même temps, j'ai l'impression que si on ne parle pas du handicap, on invisibilise aussi, sans utiliser les mots. Donc il y a un peu un côté aussi, les mots, c'est les gens qui vont travailler sur les œuvres et sur leur travail. Donc c'est ça le art brut. Et de se dire que si on ne parle pas du handicap, ça fait quand même partie de leur vie et ça a un peu été des contraintes parfois pour eux. Et donc, ne pas en parler, c'est un peu dire...
Caché.
Oui, un peu caché. Mais bien sûr, ne pas commencer à étaler leur dossier médical, on n'en a rien à faire. Mais du coup, voilà.
Mais c'est la même chose avec le pictogramme de l'handicap. Et le pictogramme d'handicap universel, c'est quelqu'un dans une chaise. Mais il y a une diversité des handicaps qui est nuancée de 0 jusqu'à 100. On oublie toujours, on ne peut pas... Oui, le cadre, oui, ça n'existait pas en fait.
J'ai une question sur la vente d'œuvres. C'est-à-dire, on est dans une galerie. Je crois qu'il y a eu des ventes et je voudrais savoir comment ça se passe.
Ok.
Voilà.
Ça dépend centre par centre. C'est un peu tabou et je vais comparer aussi quand je peux avec des autres centres. Le CREAM, du coup, on ne fonctionne pas comme une galerie. Tout le monde qui travaille au CREAM a signé une convention que toutes les œuvres appartiennent au CREAM. Mais ça ne veut pas dire, quand il y a des ventes, ça ne va pas aux artistes. Toutes les personnes ont un budget personnel subsidié par le gouvernement. Et quand une personne en situation d'handicap gagne, d'argent, la famille va perdre la colocation, on dit? Non, le montant.
Pardon? Les allocations.
Les allocations. Du coup, quand la personne a beaucoup de ventes, c'est à la Belge, on achète une belle montre, un voyage en Italie. Voilà quoi. Et quand je compare avec des autres centres, en Allemagne, les artistes sont payés pour être là, c'est leur travail. En Belgique, les artistes ou des personnes dans un autre centre occupationnel, n'importe quoi, payent pour suivre l'activité. Du coup, ça change notre rôle d'employeur vers employé. J'ai travaillé en Allemagne, du coup j'ai switché mon rôle, c'était bizarre de le faire. Il y a des ateliers qui fonctionnent. En Suède, par exemple, on était là une semaine pour comprendre les différents fonctionnements en Europe. Il y a une loi de 94 qui dit que toutes les personnes en situation de handicap ont droit d'une place de travail, ne peut pas rester en famille. Et quand la place n'est pas là, le gouvernement doit créer la place ou l'éducation pour la personne. Du coup, toutes les galeries fonctionnent comme des galeries. Et c'est 40% pour la personne et 60% pour l'institut. Mais l'argent va directement dans la collectivité du centre. Matériel, trajet, les repas biologiques, le temps de midi, les salaires, voilà, ça dépend. Mais la seule chose qu'on peut faire quand quelqu'un est vraiment arrivé comme artiste est de créer un ASBL autour de la personne.
Ok.
Mais on ne peut pas faire ça pour tout le monde.
Le fait, comme tu disais, que la vente des œuvres ne soit pas un des buts du CREAM, ça rejoint, je trouve, la question de la liberté de création. C'est-à-dire qu'ils sont plus, vous n'avez plus, ça n'est plus nécessaire, ça n'est plus une option de les enfermer dans quelque chose qui soit vendable. Et ça, ça permet une création beaucoup plus libre.
On dit toujours la personne est au milieu du projet. Mm-hmm. Et je suis totalement d'accord, mais la période Covid m'a appris aussi que c'est la communauté autour de la personne. C'est le lieu aussi qui est important. Quand on ne soigne pas l'équipe autour de la personne, ce n'est pas idéal non plus. Ça doit être quelque chose... on doit être vigilant pour les personnes qui travaillent aussi avec les personnes en situation de handicap. Et ça, on a beaucoup du travail encore politiquement aussi. C'est quoi notre rôle, en fait, et dans la société aussi. Voilà. Mais c'est le soin et la culture et la combinaison fait que nous sommes quand même en situation financière un peu difficile pour le moment, oui.
Alors ça, je réponds. Hein. Ma réponse à la fatigue et à la maladie, c'est botanicum. Ah oui, parce que tout le monde se fatigue. Avec tous les projets, moi-même, je me suis fatiguée. Je me suis dit, stop, cette année, je ne veux pas que ce soit comme ça. Je veux quelque chose qui soit protégé de ça. Et botanicum, c'était ça pour moi.
Je sais bien que la manipulation est très connotée négative, mais pour nous, il y a une manipulation positive aussi dans notre quotidien.
Oui, c'est un terme que vous avez beaucoup utilisé quand je vous ai rencontré aussi, une manipulation positive, mais vous disiez c'est aussi eux qui nous manipulent.
Ah oui.
Elle et eux, pardon, qui nous manipulent.
Oui.
Et ça, c'est super intéressant.
Et Géraldine qui veut manger une glace à côté de la Meuse, parce qu'elle est, tu vois, c'est une conversation mutuelle. Et c'est ça, je peux juste dire peut-être, dans ma vie créative, je suis inspiré par eux et c'est mon travail qui a évolué d'une façon vers la qualité à cause de mon travail dans les cendres.
C'était super.
Merci.
Et super intéressant, je crois que c'était vraiment bien.
Merci pour l'accueil, c'était super aussi pour l'équipe et la CENO et voilà.
Merci beaucoup.
Merci.